Je t'aime, Seigneur. Alléluia, béni soit le Seigneur. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, et nous commencerons notre lecture au verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Amen. Et je relis simplement à la fin du verset 10. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il est probable que vous avez là, dans cette phrase, la clé de la compréhension prophétique de l'Apocalypse. Donc, vous savez que l'Apocalypse a toujours exercé un attrait particulier, un attrait particulièrement puissant sur pas mal de croyants. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que c'est le livre de la prophétie par excellence. Donc, il se proclame comme tel du début à la fin. Lorsque vous regardez au chapitre 1, dès le verset 3, vous lisez par exemple « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et lorsque vous allez tout à la fin, au chapitre 22, au verset 18, vous lisez encore je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, vous voyez bien, il s'agit d'une prophétie. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie de sainte décrite dans ce livre. Donc, il s'agit bien du livre de prophétie par excellence. Et non seulement cela, mais le grand but de ce livre, c'est de nous préparer au retour de Christ. Et cette attente est mise en évidence également d'une façon très claire au début et à la fin. Vous l'avez lu tout à l'heure, verset 3, il est marqué « car le temps est proche ». Et au chapitre 22 et au verset 20, où il est, dit, est marqué encore « celui qui atteste ces choses dit « oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus ». Bientôt peut se traduire par « soudainement », soudainement, rapidement en fait. C'est donc quelque chose qui va se passer extrêmement rapidement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous explique, tout ça nous explique que beaucoup de croyants sincères ont cherché à percer les mystères des circonstances, des temps, de l'époque, du retour de Christ au travers de l'Apocalypse. En plus, l'Apocalypse, c'est un livre de mystères dont certains sont impénétrables, mais d'autres pas forcément. Et vous avez des textes qui ont effectivement correspondu de façon frappante à des situations de l'histoire, situations de nos sociétés. Vous avez eu des accomplissements remarquables de certaines des prophéties de Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, des fidèles enthousiasmés, bien intentionnés, sont allés de l'avant dans l'interprétation de tel ou tel chapitre ou autre passage de l'Apocalypse. Puisqu'il est marqué dans le livre du prophète Daniel que certains mystères ne sont pas scellés pour toujours, mais que dans les derniers temps, la connaissance augmentera, il en est qui se sont audacieusement avancés en affirmant clairement que tel texte signifiait ceci, tel autre cela. Et on n'a pas toujours eu raison d'agir ainsi, parce que malgré la bonne volonté évidente au départ, malgré les efforts provenant de bons désirs, eh bien, on a pu se tromper, et parfois se tromper lourdement. Donc il faut quand même le savoir, hein, c'est quand même un domaine, il ne faut pas être téméraire, hein, que celui de la prophétie, et spécialement quand on commence à travailler avec l'Apocalypse. Hein. Et malgré tout, l'Apocalypse est un livre qui est donné aux croyants, comme tout autre livre biblique, et même... Son message est, dirais-je, de plus en plus important au fur et à mesure que les temps dans lesquels nous vivons nous pressent. On le voit, et sans nous donner l'heure ni le jour, cet Apocalypse est d'une grande importance, d'une grande valeur pour nous aider à être prêts au retour du Seigneur. Et puis aussi nous aider à discerner les temps de sa venue et à réaliser les signes précurseurs et annonciateurs de sa venue. Voilà. Et c'est pourquoi, à partir de notre texte principalement, et de quelques autres en même temps, nous pourrons développer, Dieu voulant, dans la suite de notre prédication, trois grands points. Déjà, nous parlons des difficultés de bien comprendre le message et la signification de l'Apocalypse, avec quelques raisons de ces difficultés. Ensuite, nous pourrons parler un peu de cet esprit de prophétie. Ce qu'est cet esprit de prophétie si important, cité dans notre texte? Et enfin, nous pourrons parler des conditions qui sont énoncées dans notre passage pour que cet esprit de prophétie soit en nous, ou peut-être plutôt que nous en soyons saisis. Voilà. Donc, en premier, parlons des difficultés de bien comprendre le message, la signification de l'Apocalypse avec quelques raisons. Vous savez, vous avez des gens, ils vont considérer l'Apocalypse uniquement suivant les allégories et les images qu'ils vont voir là. Et puis ils vont dire, mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire des hommes et sans accomplissement dans le temps. Et voilà, ils vont dire ça. Ça, c'est, je dirais, à une extrémité du spectre. Après, vous avez ceux qui voient la réalisation d'une prophétie dans le moindre fait d'actualité, donc, qui essayent donc de faire coller des passages avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient ou comme événement, dès qu'il y a un événement un peu exceptionnel, alors ils vont y voir une prophétie. Et là, je crois qu'il y a un autre extrême. Après, vous avez tous ceux qui ont un manque de connaissance de l'Écriture par ailleurs et qui prétendent étudier l'Apocalypse comme ça. Il faut quand même se dire que l'Apocalypse, c'est le livre de tout le Nouveau Testament, de tous les livres du Nouveau Testament. C'est le livre où vous avez le plus de références à l'Ancien Testament, et spécialement à des prophètes de l'Ancien Testament. Si vous ne connaissez pas les prophètes, les messages des prophètes de l'Ancien Testament, ça va être compliqué pour vous de bien comprendre l'Apocalypse. La Bible s'explique par la Bible. Il faut quand même toujours se dire ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir travaillé la question pour commencer à considérer le sujet. Et puis, vous avez ceux aussi qui ne réalisent pas que la révélation de l'Apocalypse est quelque chose de progressif, qu'on sait des choses aujourd'hui, effectivement, mais qu'on ne sait pas tout aujourd'hui. Et puis, bien sûr, vous avez toutes les interprétations dans lesquelles je ne rentre pas. Et tout ça, ça amène bien des discussions, ça amène des désaccords. Et le problème, c'est que ça risque d'amener, et c'est ça qui est embêtant, un manque de préparation au retour de Jésus. Donc, ce qui est quand même le plus important. C'est pas tout de savoir, c'est pas tout de discuter. Mais le tout, c'est d'être prêt quand même au retour du Seigneur. C'est quand même ça la grande chose. Alors, quelles sont les raisons de ces manques de compréhension, de discernement et d'équilibre dans l'interprétation de la parole de Dieu ? Pour en avoir diverses, déjà nous l'avons vu, peut-être le manque sérieux d'étude de toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu n'a pas donné simplement certaines paroles. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent « Je veux connaître la volonté de Dieu, je prends ma Bible, hop, je l'ouvre comme ça et je regarde. » Bon, peut-être qu'une fois, Dieu va faire grâce et va permettre d'une fois que ça marche de cette manière-là. Mais d'habitude, ce n'est pas comme ça. Dieu nous fait connaître sa volonté lorsque nous lisons et que méditons la parole de Dieu avec régularité. C'est comme ça que Dieu nous va nous parler. Dieu va nous parler d'une façon régulière, d'une façon suivie. Après, vous avez aussi le problème de l'incrédulité de certains par rapport au plan de Dieu, par rapport à son action. Ça aussi, évidemment, ça empêche d'avoir une bonne compréhension de l'Apocalypse. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui existe, c'est le manque d'équilibre entre la théorie et la pratique. J'ai vu, par exemple, des grands théoriciens de l'Apocalypse, mais qui n'avaient aucune vie d'église. Vous voyez ? Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème, parce que vous pouvez avoir toutes les belles théories que vous voulez, mais si vous n'avez pas une application spirituelle dans votre vie de tous les jours, alors c'est comme si vous aviez une énorme tête, hein, et un tout petit corps de rien avec aucun membre, avec aucune force dans les membres. Hein. Donc il faut qu'il puisse y avoir un équilibre dans les choses aussi. Hein. Donc si on veut que le Seigneur nous explique sa parole, il faut avoir aussi une obéissance en ce qui concerne ce que Dieu nous montre dans sa parole. Et puis il faut avoir que Dieu nous aide à avoir de l'humilité. Hein. Quand on ne sait pas, il faut admettre, il faut dire « oui, je ne sais pas, je n'ai pas encore compris ça ». Je n'ai pas encore réalisé ça. Il faut ça tout simplement juste le reconnaître. Hein. Et puis vous avez le problème de ceux qui veulent faire passer leurs idées. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, des idées politiques ou socio-économiques ou autres. Je me souviens du temps où on trouvait des livres dans lesquels il était marqué que la bête de l'Apocalypse, c'était l'URSS. Je me souviens, j'ai vu ça, je l'ai lu. Et puis après, j'ai lu un autre livre, c'était marqué que c'était l'islam. Voyez-vous ? Alors bon, je ne veux pas dire que tout était qu'il n'y avait pas des caractères peut-être qu'on pouvait trouver dans ces sociétés ou dans ces. Mais en tout cas, vous voyez que ça c'est aussi un problème quand on veut faire passer les choses de cette manière-là. Donc, je crois que la difficulté c'est si on commence à étudier de manière à perdre la ferveur spirituelle, voyez-vous. Hein. Je suis toujours émerveillé lorsque je regarde dans la vie du prophète Élie. Le jour d'avant son enlèvement, enfin le jour de son enlèvement plus exactement, hein, je me souviens qu'il est passé en plusieurs endroits où il y avait des fils des prophètes qui étaient là, donc de ceux qui avaient écouté, qui ont entendu son enseignement, et tous savaient qu'Élie allait être enlevé ce jour-là. Et tous s'adressent à Élisée, les uns après les autres, dans chaque groupe, et disent « Sais-tu que l'Éternel enlève ton maître au-dessus de toi ?» Ils le savaient. Ils savaient, mais ça ne les faisait pas bouger plus pour ça. Ils le savaient, mais ça ne les faisait pas prendre des positions plus que ça. Et Élisée, qu'est-ce qu'il leur répondait ? Je le sais aussi, et il ajoutait, quoi ? Taisez-vous. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient prêts à discuter du sujet, voyez-vous. C'était une prophétie en train de s'accomplir. Vas-y, on discute de la question. Mais le problème, ce n'était pas de discuter. Le problème, c'était de suivre Élie. Hein ? Et Élisée, c'est celui qui, quand Élie lui disait, mais écoute, non, mais tu peux rester là parce que le Seigneur m'envoie. Ah non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point, il a dit. Et c'est comme ça qu'il a obtenu la bénédiction. Et ce qu'il faut toujours se rappeler lorsqu'on étudie l'Apocalypse en particulier, mais toute la parole de Dieu, que Dieu nous aide à garder une ferveur d'esprit. Ça, c'est fondamental, ça, c'est très important. Donc, voilà, et tout ça pour dire que c'est vrai que nous risquons de verser dans l'un ou l'autre déséquilibre, dans l'une ou l'autre tentation, lorsqu'on travaille sur ces choses, mais cette réalité donc est particulièrement effective pour ceux qui étudient l'Apocalypse. Et c'est pour ça que notre texte est tellement important, hein, pour que nous sachions et connaissions par nous-mêmes ce qu'est cet esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la prophétie ? Et vous savez tous comme moi que l'esprit d'une chose a au moins autant d'importance que la chose elle-même. Hein ? Donc, il faut quand même se souvenir de ça. Par exemple, nous pouvons avoir ce qui est habituellement considéré comme une attitude d'obéissance ou une tenue qu'on va considérer comme un exemple visible d'obéissance à la parole de Dieu. Mais nous savons aussi que s'il n'y a pas un esprit d'obéissance, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Si le signe extérieur a son importance, eh bien, c'est parce qu'il doit justement signaler la bonne attitude de cœur intérieur, le bon esprit, c'est ça qui va faire la valeur de l'ensemble. Hein, donc, par exemple, voilà, vous êtes juste en train de m'écouter maintenant, les visages sont tournés vers moi, c'est le silence relatif, voilà, des Bibles sont ouvertes. Mais qu'en est-il de l'esprit dans lequel ces choses sont faites ? Hein, c'est ça la question. Nous savons tous très bien que c'est quand nous cherchons véritablement le royaume de Dieu et sa justice, quand nous avons vraiment un esprit de recherche de la volonté de Dieu pour notre chemin, pour notre vie et pour sa gloire, que toute notre écoute de la parole de Dieu va pouvoir avoir sa valeur devant lui et pouvoir être béni. Parce que sinon, on peut très bien être en train d'écouter, de penser à autre chose. Hein, enfin, de regarder et de penser à autre chose. Par exemple encore, lorsque nous sommes en train de prier de louer Dieu, voilà, Alors on peut être debout et dire des Alléluia, même assis, et dire des Alléluia, prononcer de très belles prières à haute voix, qui pourront peut-être même faire l'admiration de ceux qui autour de nous les entendent. Mais est-ce que nous sommes vraiment en train d'adorer le Seigneur ? Nous sommes vraiment en train d'adorer Dieu seul ? Est-ce que nous sommes vraiment en train de nous réjouir en lui ? Est-ce que nous sommes en train de le glorifier de toute notre âme ? Vous savez, vous avez un très bon test pour savoir ça. Vous savez ce que c'est le test ? Eh bien, c'est qu'en est-il de notre prière quand on est tout seul ? Qu'en est-il de notre adoration, de notre louange quand on est tout seul ? C'est ça le test. Parce que la vraie piété, c'est celle quand on est tout seul avec Dieu. Voilà. Et c'est quand on est tout seul avec Dieu, eh bien, c'est là qu'on voit si vraiment on est quelqu'un qui adore, quelqu'un qui loue, quelqu'un qui prie de tout son cœur et qu'on a l'esprit de la chose. C'est l'esprit qui vivifie, dit le Seigneur. La chair ne sert de rien. Non pas d'une manière absolue, parce que la chair c'est un moyen, c'est un support, mais le moteur, ce qui donne de l'élan, c'est spirituel, c'est par l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre de la loi, elle a son importance, elle a sa place. Nous disons, savons que la loi, c'est le pédagogue qui nous conduit à Christ, mais il ne peut pas y avoir une œuvre de salut qui s'accomplisse vraiment sans l'action de l'Esprit qui donne la vie. Et c'est aussi pour ça que Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et quand il dit ça, Jésus, il a dit ça, rappelez-vous, c'est au moment où il y avait la Sainte Cène, enfin, où il parlait de la Sainte Cène, où il disait « Vous devez manger ma chair et boire mon sang. » Alors, il y en a qui se sont révoltés contre ça. Ils ont dit, mais c'est pas possible, il ne va pas nous demander une chose comme ça. Et Jésus a rajouté, mais non, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il faut que vous compreniez spirituellement la question. Mais sachons-le, sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Même dans la Bible, il faut avoir une Bible et la lire tous les jours. Mais si vous n'avez pas l'esprit, il n'y a pas de vie dedans. Et vous n'aurez pas la vie de cette manière-là. Sans l'esprit de vie, sans l'esprit de Dieu, pardon, il n'y a pas de bonne compréhension de l'Écriture. Prenez l'exemple du baptême. On va avoir des baptêmes bientôt. Donc, eh bien, il est particulièrement clair que c'est l'esprit dans lequel le baptême est pris qui va lui donner sa force et sa bénédiction. Il s'agit donc pour nous de le prendre en l'accompagnant de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. À ce moment-là, c'est vrai, Dieu approuve le baptême. Mais sinon, le baptême n'a pas plus de valeur qu'un passage dans une baignoire et encore sans le savon. Voilà. Donc, nous allons prendre la Sainte Cène tout à l'heure. Donc, et là encore, il y a une évidence que les choses vont encore plus loin. Parce qu'il faut vraiment que l'état d'esprit accompagne le signe, puisqu'il est marqué que celui qui ne discerne pas le corps et le sang du Seigneur prend un jugement, voit un jugement contre lui-même. Vous avez vu, c'est marqué. Et puis, il nous est dit même que ça peut aller loin, dans toutes sortes de mots, et même jusqu'à la mort. C'est dit le passage, dit le contexte, en expliquant parce que on n'a pas discerné donc le corps et le sang du Seigneur. Et il n'y a pas moyen d'y échapper d'ailleurs, puisque l'ordre est donné à tous, à tous les baptisés, de prendre de ce saint repas. Si certains se disent, moi je ne suis pas dans la bonne condition pour prendre la Sainte Cène, alors je me retire et je ne la prends pas. Eh bien dis-toi une chose, c'est que de toute façon tu désobéis quand même, parce que la parole de Dieu dit que tu dois le prendre. Donc tu n'as pas le choix. Il faut que tu le prennes en te mettant dans le bon état d'esprit. Et si tu dois te repentir, eh bien n'attends pas pour te repentir, fais-le tout de suite. Parce que si tu ne te repens pas, parce que si tu ne le fais pas maintenant, parce que si tu ne pardonnes pas maintenant, eh bien sache que le Seigneur ne te pardonnera pas non plus. Que tu prennes la Sainte Cène ou pas d'ailleurs, c'est comme ça. Mais en tout cas, la volonté de Dieu, c'est que nous prenions la Sainte Cène de la bonne façon. Le signe avec l'esprit, avec le bon état d'esprit. C'est ça la chose. L'un est aussi important que l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Il en est donc exactement ainsi en ce qui concerne la prophétie. Elle ne saurait être bien reçue, bien comprise ou bien interprétée si nous ne sommes pas dans le bon état d'esprit, dans la bonne attitude. Sans l'esprit de la prophétie, on ne pourra pas bénéficier de la prophétie. Sans l'esprit de la prophétie, on ne pourra pas comprendre la prophétie. Sans l'esprit de la prophétie, on ne pourra pas bénéficier de la prophétie. Je ne sais pas combien de fois il faut le dire, mais en tout cas, voilà, c'est important. Mais l'esprit de la prophétie nous permet de comprendre la prophétie dans toute la mesure où c'est possible de la comprendre. Donc, dans l'Apocalypse aussi. L'esprit de prophétie nous permet de comprendre ce que Jésus a voulu dire. Le titre de l'Apocalypse, Apocalypse, ça veut dire révélation, ça veut dire découvrement. Hein? Donc, et lorsque vous voyez comment ça commence par révélation de Jésus-Christ. Hein? Donc, ça veut dire que Jésus veut se révéler. L'esprit de prophétie va nous aider à comprendre ce que Jésus veut nous révéler. L'esprit de prophétie permet de comprendre ce qui est scellé au moment où Dieu le décellera. Hein? Donc, puisque ben, par un moment, ben, le temps va être décidé pour qu'il en soit ainsi. Et alors, on comprend comment Dieu accomplit ses prophéties dans l'histoire. Et alors, on discerne par l'Esprit de Dieu les signes que le Seigneur donne et on discerne aussi leur importance. Et on peut faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. L'Esprit de prophétie permet de comprendre les temps et les moments que Dieu a fixés et de les discerner. Et même pour nous, de réaliser quels sont les moments importants où Dieu s'adresse à nous. Dieu s'adresse à nous en tout temps. Mais il y a des situations particulièrement importantes, il faut savoir le discerner. Il ne faut pas passer à côté. Hein. Et l'esprit de prophétie nous permet aussi d'être prêt au retour du Seigneur. Hein. Et donc, d'être prêt à chaque temps de l'accomplissement de ses plans, chaque temps de l'accomplissement de son œuvre. L'esprit de prophétie nous permet de ne pas être largué, si je peux dire, dans l'évolution de l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu évolue. Hein. L'esprit de prophétie nous permet de ne pas être largué dans la croissance de l'Église. Hein. Parce que l'Église, elle avance, vous savez. Et si on ne veille pas, on peut être laissé au bord de la route. Hein. C'est parfaitement possible. Donc, l'esprit de prophétie, c'est ce qui va nous aider à pouvoir vraiment suivre la chose. Et d'ailleurs, on voit très bien, dans le contexte qui suit notre verset, hein, le verset 10, il est question de la seconde venue de Christ pour établir son règne. C'est pour ça que nous avons lu jusqu'au verset 16, son règne de gloire, de puissance. Et pour discerner cela, cet esprit de prophétie est indispensable et aussi pour être prêt et participant à cette glorieuse venue de sa part. Amen. Voilà. Donc, ça nous amène à notre troisième point maintenant, puisqu'on commence à réaliser, je pense, l'importance de cet esprit de la prophétie et d'en bénéficier, de l'avoir en nous. Parlons maintenant, enfin, des conditions qui sont énoncées dans notre passage pour que cet esprit de la prophétie soit sur nous. Vous pouvez en voir sept dans le texte, dans le passage. Déjà, la première condition, c'est de garder le témoignage de Jésus. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on voit dans la fin du verset 10, lorsque l'ange dit « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Et un peu plus loin, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia! Parce que pour avoir l'esprit de la prophétie, il n'y a pas besoin d'être un grand théologien. Pour avoir l'esprit de la prophétie, il n'y a pas besoin d'avoir lu sa Bible des dizaines de fois. Il n'y a pas besoin de connaître le déroulement successif des sept sceaux, des sept trompettes et des sept coupes, bien que ces choses aient leur utilité, bien sûr, qu'elles soient tout à fait recommandables. Ce qu'il faut en priorité, c'est avoir et garder le témoignage de Jésus. Et ça, c'est à la portée de la personne qui vient de se convertir hier, hein, ou même qui vient de se convertir aujourd'hui. Elle peut avoir et elle peut garder le témoignage de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est important. Ça veut dire confesser et témoigner que Jésus est le Sauveur, le Seigneur. Ceci par notre parole, ceci par notre vie. C'est-à-dire aussi porter son évangile, sa parole de vie, comme un flambeau au milieu des ténèbres de ce monde. Le Seigneur dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, car hélas, combien ces ténèbres sont de plus en plus profondes. Ça veut dire vivre pour lui, vivre pour son œuvre, vivre pour sa gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça veut dire le servir, le suivre, être son disciple, l'aimer, lui obéir, suivre son exemple avec son secours, bien sûr, marcher dans ses traces. C'est-à-dire que, voilà, nous charger chaque jour de notre croix pour le suivre. Et quand nous gardons le témoignage de Jésus, eh bien, lui-même témoigne pour nous. Ça aussi, c'est un grand privilège. Et il fait ça de plusieurs façons. Déjà, il dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Il est écrit encore, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et encore, « J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. » Alléluia. C'est lui qui nous donne cette assurance. Et c'est pourquoi cette phrase peut aussi être prise dans ce sens, c'est qu'en signe d'approbation, En signe de témoignage en notre faveur, le Seigneur nous accorde cet esprit de la prophétie qui est si précieux et si indispensable. Donc, première chose. Et voici maintenant la deuxième. Ceux qui ont l'esprit de la prophétie adorent Dieu. C'est aussi ce qui est clairement indiqué à la fin du verset 10. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous avez vu ce petit car qui est là, cette petite conjonction de coordination. Ce petit lien qui relie donc ce qui vient d'être dit, adore Dieu et l'esprit, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Les deux vont ensemble, les deux sont liés. C'est ce qui nous est indiqué là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes venu votre Sauveur qui vous a délivré de la misère et de la perdition, adorez-le. Amen. Est-ce que vous êtes venu aujourd'hui vers celui qui a exaucé tant de vos prières? Amen. Alors, adorez-le. Béni soit son nom. Est-ce que vous êtes venu vers celui qui a pourvu à vos besoins avec fidélité par sa providence? Amen. Alléluia. Alors, adorons-le. Est-ce que vous êtes venu vers celui qui vous a fait entrer dans l'alliance du baptême et ses promesses? Alors s'il l'a fait, que vous en êtes conscient, eh bien bénissez-le et glorifiez-le. Alléluia. Est-ce que vous êtes venu vers celui qui vous a admirablement manifesté son amour à la croix et puis au-delà, vous a manifesté sa vie de résurrection? Amen. Alors, alléluia, adorez-le. Est-ce que vous êtes venu aujourd'hui vers celui qui vous conduit comme un bon berger dans de verts pâturages et sur le bon chemin? Amen. Alléluia, eh bien, adorez-le. Est-ce que vous êtes venu aujourd'hui vers celui qui fait toutes choses nouvelles et qui régénère continuellement ceux qui se confient en lui? Amen. Alors adorons-le, glorifions-le. Est-ce que vous êtes venu vers celui qui vous a préparé un merveilleux plan de service pour lui, un idéal d'épanouissement et de plénitude? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que c'est vrai pour vous? Amen, alléluia. Alors adorons-le, frères et sœurs. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en lui. C'est ça la grande et glorieuse réalité. Est-ce que vous êtes venu vers celui qui veut vous faire passer victorieusement la mort et vous faire entrer dans la vie de résurrection? Amen. Alors si vous savez cela, vous avez une glorieuse espérance et une grande raison de l'adorer. Est-ce que vous êtes venu vers celui qui veut vous faire entrer dans la gloire, dans l'éternité de gloire? Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là qui ont l'esprit de prophétie et celui qui les rendra prêts et debout au retour de Christ, ceux qui l'adorent de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Et puis la troisième condition que nous voyons, c'est ceux qui s'attachent à leurs frères. Ceux-là ont l'esprit de prophétie également. Parce que dans le verset 10, nous lisons, « L'ange dit, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ses frères, ses sœurs, ce sont ceux qui ont le témoignage de Jésus. Parce que c'est ça leur trésor. Leur trésor, c'est le témoignage de Jésus. Donc, c'est ce à quoi ils s'attachent plus que tout. C'est pour ça qu'ils vivent, c'est ce qu'ils gardent. Et c'est leur signe de reconnaissance. Vous savez, les chrétiens des premiers siècles, quand ils étaient persécutés par les autorités romaines, pour se reconnaître les uns les autres, eh bien, lorsqu'ils se rencontraient, puis qu'ils imaginaient que quelqu'un pouvait être chrétien, mais qu'on n'était pas sûr, alors ils faisaient juste un tout petit signe. C'est ça. Ils le faisaient négligemment. Dans le sable, par terre, dessiner un petit poisson comme ça. Juste, toc, comme ça. Et si l'autre était chrétien, il faisait la même chose en face. Mais il faisait ça d'un air négligent, voyez-vous. Et comme ça, ça permettait de savoir que l'autre était chrétien. Parce que le petit poisson, en grec, c'est ichthus. Et ichthus, vous avez cinq lettres dedans. Donc, et en grec, ça correspond à chacune de ces lettres correspond à la première lettre de l'expression suivante, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voyez-vous? Donc les lettres du mot poisson, ça correspondait à la première lettre à chaque fois, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc c'était leur signe de reconnaissance. Et c'est comme ça, c'était un signe ralliement. Et c'était une profonde réalité de leur appartenance commune à Christ et de leur fraternité en Jésus-Christ. Et c'est un lien qui est plus fort que le lien du sang, vous savez, Les liens du sang ont leur légitimité, ils sont assez forts, c'est vrai, ici-bas. Mais si dans le ciel, ces liens de sang ne sont plus, et que les liens de fidélité en Christ restent pour l'éternité, alors en vérité, quels sont les liens les plus importants ? Quels sont les liens les plus importants pour un croyant ? Les liens du sang ou les liens spirituels ? La parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, son frère ou sa sœur plus que moi n'est pas digne de moi. » Et ce sont ceux qui mettent cela en œuvre avec foi, auxquels le Seigneur donne cet esprit de la prophétie dont notre texte nous parle. Et puis la quatrième chose que nous voyons, c'est que ceux qui ont l'esprit de prophétie ont des anges pour compagnons. Oh, moi, quand je lis ça, le verset 10, l'ange dit « Je suis ton compagnon de service ». Alors on pourrait dire, bon, Jean a de la chance, hein, il est privilégié, il a un compagnon. Mais regardez la suite. « Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Alléluia. Vous savez ce que c'est qu'un compagnon ? Un compagnon, c'est quelqu'un qui est avec vous et qui demeure avec vous. Quand je parle de ma compagne, tout le monde sait de qui il s'agit, puisque nous cheminons ensemble dans l'existence depuis maintenant plus de 44 ans. Et quand on dit de quelqu'un qui est le compagnon de route d'un autre, c'est cette même idée de marcher en commun depuis longtemps et tout au long de ce voyage qui est sous-entendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un ange se dit être notre compagnon ? Sinon, qu'il n'est pas là pour quelques instants seulement, mais qu'il est continuellement à notre côté. C'est répété dans le chapitre 22, au verset 9. Là aussi, il le dit. C'est pour nous confirmer cela, à nos esprits qui auraient tendance à être incrédules sur ce point-là. Un ange, et peut-être même plusieurs, mais en tout cas, un au moins, toujours avec moi, toujours à mes côtés. Et attention, un de ces anges qui, quand Jean l'a vu, l'apôtre Jean, le vénérable homme de Dieu, Jean, il a failli se prosterner devant lui. Donc, imaginez la gloire, imaginez la majesté, la puissance d'un ange semblable à cela. Mais alors, un tel ange à mes côtés, mais alors, quelle doit être ma conduite ? Quelles doivent être mes paroles ? Quelle doit être mon attitude ? Donc, là où je suis, à la maison, dans la rue, mon compagnon, partout, que Dieu soit béni pour les anges qui m'ont supporté jusqu'à présent, et puis que je puisse moi aussi changer, bien sûr à cause du Seigneur en premier, mais aussi à cause de ses anges. Et c'est là que le Seigneur donne l'esprit de la prophétie, qui ne peut qu'être approuvé évidemment par la présence de ce compagnon angélique. Amen, amen. Et puis ceux qui ont l'esprit de prophétie ont aussi un esprit de service. Voilà, ça aussi c'est important. Je suis ton compagnon de service. De service. Voilà. Pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui ? Est-ce que tu es venu pour servir Dieu ? Ou bien est-ce que tu es venu pour te servir de lui ? Vous voyez, les gens, ils prient parce qu'ils voudraient que Dieu leur donne quelque chose. Et si Dieu ne leur donne pas, ils ne vont pas être contents. Alors, ils vont lâcher, ils vont donner. Mais ça, ce n'est pas servir Dieu. Ça, c'est se servir de Dieu. Vous savez que les sorciers qui pratiquent la magie blanche se servent de Dieu. Ils peuvent le faire. Ils vont utiliser le Notre Père dans leur combinaison. Ils vont prendre même des passages bibliques. Et puis, ils vont faire de la magie blanche avec. Et puis, ils vont s'imaginer qu'ils sont très religieux. Mais en réalité, c'est très mauvais. Parce que se servir de Dieu, c'est de la sorcellerie, en fait. Il faut servir Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous servir Dieu, nous sommes là pour servir Dieu. C'est ça la grande différence. Et il faut qu'on soit content. Est-ce qu'on est là pour servir les autres ou bien est-ce qu'on est là pour se faire servir par eux ? Est-ce qu'on est là pour vouloir avoir des égards pour les autres ou est-ce qu'on est dans l'attente qu'on ait des égards pour nous ? Est-ce qu'on est là pour honorer les autres ou bien est-ce qu'on est là dans l'espoir d'être honoré, d'être mis en avant ? Le Fils de l'homme est venu pourquoi ? Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Est-ce que tu es venu pour te donner ou est-ce que tu es venu pour que les autres te donnent ? Nous avons un service. Dieu veut faire de nous en particulier des pêcheurs d'hommes, chacune et chacun d'entre nous. Je lisais l'autre jour un petit texte qui parlait des quatre caractères d'un pêcheur, un pêcheur de poissons. Voilà, c'est intéressant. Voici le premier caractère. Un pêcheur connaît les poissons. Il sait où les poissons se trouvent dans l'eau, il connaît leurs habitudes, il sait où les trouver. Certains sont dans les profondeurs, d'autres en surface. Plusieurs ne font que nager seuls, d'autres le font en banc. Ça nous montre quoi ? Ça montre qu'il s'intéresse aux poissons. s'intéresse à les connaître, on est d'accord. Hein ? Donc, quelqu'un qui veut être un bon pêcheur d'hommes, enfin, il faut qu'il s'intéresse aux personnes qui veulent gagner à l'Évangile, qui s'intéressent réellement, qui a un intérêt réel pour elles. Deuxième caractère, un pêcheur connaît les périodes. Il sait quand il faut sortir pour pêcher et quand il faut attendre. Il importe de bien choisir l'heure. Il y a des moments où il est inutile de jeter le filet. Par contre, il y en a d'autres où les poissons viennent d'eux-mêmes. C'est pourquoi un pêcheur doit tenir compte des périodes. Il doit s'adapter aux périodes. Hein. Ce n'est pas les poissons qui vont s'adapter aux pêcheurs. Hein. C'est le pêcheur à s'adapter aux poissons, s'il veut les attraper. Et ainsi en est-il, ça nous parle de la disponibilité d'un pêcheur d'hommes. Et puis, une troisième chose, un pêcheur connaît son outil de travail. Il y a diverses manières de pêcher. Il faut en conséquence se servir d'appareils différents et adaptés. Pour certains poissons, il est indiqué d'utiliser un filet à jeter et pour d'autres, un filet à traîner. Un pêcheur décidera aussi s'il doit employer un hameçon ou une lance. Il est capable de tout manier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pêcheur d'homme aussi se forme. Il se forme et il acquiert de l'expérience. Hein, donc là aussi, c'est quelque chose, ça ne se fait pas forcément, sûrement, par des claquements de doigts. Et ensuite, une dernière chose intéressante, c'est qu'un pêcheur ne peut pas être vu. Il ne peut pas se faire remarquer. Il ne fait aucun bruit, aucun mouvement vif. Il ne fait pas de remous dans l'eau. Son ombre ne peut pas se projeter sur l'eau. Il doit s'effacer complètement derrière son travail. Ce n'est pas lui qui est important, mais ce qu'il fait. Et ça aussi, ça nous parle. Un pêcheur d'hommes, eh bien, c'est quelqu'un qui a cette réelle humilité, hein, donc celui qui met le Seigneur en avant pour que ce soit lui, par lui, que les choses se fassent. Et ceux qui accomplissent un tel service pour leur Seigneur, eh bien, ils seront à la fois soutenus, réconfortés, encouragés, récompensés par l'esprit de la prophétie que le Seigneur va leur accorder et par toutes ces grâces qu'il va leur multiplier. Amen. La sixième chose, nous a-t-il dit, c'est que ceux qui considèrent la valeur de la parole de Dieu auront l'esprit de la prophétie. Quand je lis à la fin du verset 9, je vois que l'ange dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Ah, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait, il n'aurait pas dû tomber aux pieds de l'ange pour adorer. Mais, bon, je voudrais voulu voir ce qu'on aurait fait nous à sa place déjà. Mais malgré tout, il a au moins des circonstances atténuantes. Hein. Au moins des circonstances atténuantes, Dieu, le Seigneur, le comprend. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est justement au moment où l'ange dit « ces paroles sont les véritables paroles de Dieu », c'est là qu'il tombe à genoux. Pourquoi ? Parce que pour lui, en fait, la parole de Dieu est plus importante que tout. Et c'est ça. Vous savez, pour Jean, eh bien, la parole de Dieu, c'est ce qu'il lit en premier. Hein. C'est ce qu'il médite dans son cœur. C'est suivant cette parole de Dieu qu'il va agir. Suivant tout ce qui est écrit, il veut y obéir en tout point. Il ne veut mépriser ni négliger un iota, un seul trait de lettre de cette parole. Il veut l'aimer et l'aimer et l'aimer plus encore. Le psaume 119 nous dit « Combien j'aime ta loi ». Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et on voit cela. Vous savez, on va le rabâcher encore une fois. Encore une fois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, versets 7 et 8. Et ça s'est accompli exactement pour Josué. Chaque fois qu'il l'a fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et chaque fois que quelqu'un fait comme ça, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et Dieu accorde l'esprit de la prophétie à ceux qui ont cet attachement profond à la parole de Dieu. Et voyons enfin une dernière chose, pardon, septième chose. Ceux qui vivent pour le ciel ont cet esprit de la prophétie également. Dans le début du verset 9, nous l'avons vu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Vous savez, ça c'est une joie, c'est un bonheur, celui-là. Le bonheur d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, le bonheur de savoir qu'on va au ciel, le bonheur de savoir qu'on va être enlevé, qu'on va partir dans la gloire, ça c'est un bonheur que personne ne peut nous enlever qui dépasse tout autre, alléluia. Ça c'est la réalité. Vous savez, on peut nous enlever toutes les joies de la terre. Hein. Il y a toutes sortes de joies qu'on peut avoir, on peut avoir la joie de la famille, on peut avoir les joies de l'amitié, les joies par les beautés de la nature, les joies, oui, de la terre, les joies du monde, les joies de l'assemblée même. Toutes ces joies-là, elles peuvent à un moment ou à un autre nous être enlevées. Hein, bon, on espère que non, mais ça peut se produire. Mais le Seigneur dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Car ça, personne ne peut vous l'enlever. Alléluia. Personne ne peut vous l'ôter si vous êtes réellement venu à Christ. Vous savez, le problème d'un certain nombre de croyants, c'est que cette joie du ciel, ils l'ont mise un peu en arrière-plan, voyez-vous. Hein, donc, ils font passer d'autres affections, d'autres sujets de joie, d'autres raisons de se réjouir avant la joie du ciel. Mais c'est quand nous mettons et que nous remettons le plus important en premier, que le Seigneur aussi peut faire prospérer dans notre cœur l'esprit de la prophétie et nous faire saisir pleinement son merveilleux message. Béni soit Dieu. Amen. Alors en conclusion, rappelons simplement cela, rappelons ces points rapidement. Le merveilleux moyen d'être toujours prêt au retour du Seigneur, c'est d'avoir l'esprit de la prophétie. Et pour cela, aimez le ciel et sa joie avant toute chose. Alléluia. Et puis aimez la parole de Dieu de tout notre cœur pour la mettre en pratique et la méditer aussi de tout cœur. Réalisez et bénir Dieu pour le compagnonnage des anges, hein, là aussi. Avoir et garder un plein esprit de service. S'attacher plus que tout à ceux qui sont de véritables frères et sœurs pour l'éternité, avec lesquels on sera toujours dans cette gloire. Avoir et garder ce trésor du témoignage de Jésus, ce témoignage pour Jésus, et bénir le Seigneur, le louer et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Amen. Alléluia.